Xavier Dectou, bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, un an après, nouvelle étape pour le musée du Louvre-Lens.
Oui, en un an, nous avons accueilli un peu plus de 900 000 visiteurs et surtout nous avons accueilli plus de 100 000 visiteurs originaires du bassin minier. Donc c'est-à-dire que l'appropriation par le territoire, elle a été forte. Un visiteur sur cinq aussi qui était étranger, dont plus de 100 000 Belges. Donc ça veut dire qu'on a placé le Louvre-Lens sur la carte des musées internationaux. Donc de ce point de vue-là, il est beaucoup trop tôt pour dire que le pari est gagné, mais en tout cas, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont extrêmement positifs.
Grande exposition en ce moment qui s'ouvre là sur les Étrusques.
Oui, c'est un des grands enjeux du Louvre-Lens que de faire découvrir des choses que l'on ne connaît pas forcément, de les rendre accessibles au public. Les Étrusques, c'est une civilisation extraordinaire. C'est la grande civilisation qui précède les Romains en Italie et qui va largement former la civilisation romaine. Cette civilisation, elle est moins connue. Pour autant, c'est une civilisation extraordinaire. Il nous paraissait essentiel de pouvoir organiser cette grande exposition autour de la ville de Cerveteri pour la faire découvrir au public.
Donc aussi l'occasion de signer un grand partenariat avec d'autres structures.
Oui, c'est la première fois qu'une exposition du Louvre-Lens va partir à l'étranger. Après avoir été présentée au Louvre-Lens, elle sera présentée au Palais des Expositions à Rome, qui est un peu l'équivalent des galeries du Grand Palais à Paris. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de commencer à travailler étroitement en co-organisation avec d'autres structures internationales. C'est la première fois, c'est loin d'être la dernière.
Combien il y aura d'expositions temporaires en 2014 ?
En 2014, on a deux grandes expositions temporaires, hein, les Étrusques et ensuite les désastres de la guerre. Je ne prends pas en compte l'exposition qui ouvrira à la fin de l'année sur le bestiaire égyptien, puisqu'elle se déroulera de décembre 2014 à mars 2015. Et plus deux expositions au pavillon de verre, celle qui ouvre actuellement, Voir le sacré, et puis à partir de l'été, une exposition sur 30 ans d'acquisition des musées de la région.
Donc après Rubens et Renaissance, on plonge dans le passé. Et donc le choix a été de présenter la civilisation étrusque, une des civilisations les plus brillantes de la Méditerranée antique. Cette exposition, elle essaye de montrer comment cette civilisation étrusque, en particulier la cité de Cerveteri, est une civilisation, une culture très originale, très forte, très particulière, et une civilisation, une culture très particulière parce que nourrie d'échanges avec le reste de la Méditerranée. Donc c'est vraiment ça le fil rouge de l'exposition, d'où la présence de ces cartes en particulier sur la Méditerranée. C'est une exposition qui présente pour la première fois donc, le portrait d'une cité. C'est une exposition qui raconte une histoire et nous tenons beaucoup à cela parce que ça n'a jamais été tenté. C'est aussi ce qui explique d'ailleurs que l'exposition sera présentée à Rome, parce que vous imaginez bien que c'est une chose de présenter les Étrusques à Paris ou à Lens, et c'est une autre d'aller les présenter à Rome même, sur les lieux du crime, si je puis dire. Donc ça veut vraiment dire qu'effectivement c'est une exposition ambitieuse du point de vue scientifique, novatrice, et en même temps qui veut justement rendre accessibles les choses au public. Donc c'est une exposition qui retrace plus d'un millénaire d'histoire en continu. Et ça aussi, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a très peu, finalement, de cités antiques pour lesquelles on puisse proposer un tel portrait. Donc depuis la fin du second millénaire avant notre ère jusqu'au début de notre ère, depuis le 12e siècle avant jusqu'au 1er siècle après, voilà les œuvres s'échelonnent entre ces deux périodes. On peut suivre en continu l'histoire d'une cité. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc l'exposition, elle naît vraiment d'un double constat. Premier constat, Cerveteri est une des cités les plus importantes du monde étrusque et une des métropoles les plus importantes de la Méditerranée antique. Et ça, ce sont les textes antiques eux-mêmes qui nous le disent, et on le rappelle au tout début de ce panneau introductif. Les historiens grecs, les textes romains nous rappellent que Cerveteri était une des principales métropoles d'Étrurie et une des principales métropoles de Méditerranée. Donc, importance objective de Cerveteri. Et par ailleurs, et c'est le deuxième élément très important, importance de nos connaissances sur la cité. Cerveteri est très probablement la cité étrusque que l'on connaît le mieux, parce qu'elle est fouillée depuis deux siècles, et surtout parce qu'il y a vraiment une actualité aussi de la recherche archéologique. Et donc on confronte les fouilles les anciennes, puisque on va le voir, Cerveteri a été fouillée depuis le 19e siècle, deux siècles de fouilles pratiquement, et qui ont fait la richesse des grandes collections archéologiques du monde entier, en particulier du Louvre, Donc ce qui, nous, on a vraiment une très grande partie du patrimoine de Cerveteri au Louvre. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a proposé cette exposition. Donc des grandes collections depuis le 19e siècle, mais également des fouilles récentes menées en particulier par nos collègues italiens depuis une trentaine d'années au cœur de la cité et sur tout le territoire de la cité. Donc on peut pour la première fois confronter les pièces archéologiques trouvées depuis le 19e siècle et les derniers résultats des fouilles archéologiques les plus récentes. Vous verrez certaines pièces qui sont complètement inédites, qui sont sorties de terre en 2012. On est vraiment à la pointe de la recherche archéologique. Donc cette confrontation inédite, elle propose vraiment pour la première fois un bilan et puis elle ouvre aussi des perspectives pour la recherche archéologique. Donc cette idée-là de confrontation, de bilan, elle explique aussi la structure du partenariat finalement, et en particulier du commissariat de cette exposition. Donc c'est une exposition qui est organisée conjointement par le Louvre-Lens et par le Palais des Expositions à Rome, Palais Expo. Donc c'est une exposition qui a été portée, donc je vous le dis, par le Louvre, donc Françoise Gauthier et moi-même pour la partie française, mais également par le CNR italien, l'équivalent italien du CNRS, qui depuis 30 ans fouille au cœur de la cité et dont les dernières fouilles sont présentées ici, et également par la surintendance, qui est cette institution qui gère le territoire, qui gère le terrain, qui a cette fonction patrimoniale en Italie. Donc on a 6 commissaires, 2 français, 2 du CNR et 2 de la surintendance, et c'est ce qui permet justement cette collaboration internationale de donner toute cette ampleur à une vie d'une cité comme ça sur plus de 12 siècles. Je vais vous dire un petit mot de la structure de l'exposition avant de vous parler de cette introduction. Donc c'est une exposition, vous allez le voir, qui se veut très, très claire, très didactique, très accessible, parce que justement, encore une fois, on essaye de raconter une histoire, donc on essaye vraiment de faire progresser le visiteur dans cette histoire. On déroule ces 12 ou 13 siècles d'histoire en continu sur le parcours. Donc on a un parcours, vous allez le voir aussi, qui scénographiquement se veut d'une grande fluidité. On a donc un espace qui est très ouvert, qui est organisé autour d'une sorte de colonne vertébrale centrale, mais sans fermeture. Il y a des espaces très, très distincts, très, très organisés. C'est un développement assez construit, évidemment, mais dans lequel on circule aussi très librement. Et ça, c'est la grande chance aussi de cet espace d'exposition du Louvre-Lens, c'est que ça permet justement de faire vivre une exposition sur un peu comme on veut dans cette très grande superficie. Donc ce qu'on a choisi comme parti pris, c'est vraiment de dérouler une histoire, encore une fois, puisque c'est vraiment le point fort de cette exposition. Donc l'exposition, elle est conçue chronologiquement. Après cette introduction, nous déroulerons les 4 grandes périodes de l'histoire de la cité. Donc d'abord, avant de commencer vraiment par les objets, les premiers objets de la fin du second millénaire, on commence par rappeler d'où viennent nos connaissances sur la cité et par rappeler la redécouverte de Cerveteri au XIXe siècle. Donc c'est cette introduction avec cette vue emblématique que vous avez derrière vous, qui est quelque chose de tout à fait, je trouve, en tout cas personnellement, saisissant, qui est cette vision qu'on avait au XIXe siècle, d'après les textes antiques, du site de Cerveteri. Et c'est une vision par un des premiers archéologues à s'être intéressé à Cerveteri, Luigi Canina, vers 1840, et qui montre le site tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une cité. Alors évidemment, il n'y a plus les murs, il n'y a plus les temples, mais la topographie est celle-ci, c'est-à-dire une cité qui s'est développée sur un plateau rocheux et qui est séparée d'autres plateaux par des vallées. Donc la cité, elle présente presque encore aujourd'hui cette physionomie. On a vraiment le plateau urbain et autour, vous devinez à droite, tout en bas de l'image, des tumuli, ces monuments funéraires, et également à gauche, sur un plateau voisin, d'autres tumuli. Donc on avait un plateau qui était le plateau de la cité, qui était encadré par des plateaux sur lesquels étaient les nécropoles. Et donc cette vision d'une cité dans ses murs, avec ses temples, avec ses nécropoles, cette cité idéale, telle qu'elle était imaginée au XIXe siècle, l'idée c'est justement de montrer ce qu'on en sait maintenant et de montrer que justement, on connaît à la fois des choses qui viennent des temples, qui viennent du centre urbain, qui viennent des nécropoles, et c'est toute la vie d'une cité. On donne corps vraiment à cette vision du XIXe siècle grâce aux fouilles les plus récentes. Donc cette première phase est consacrée à la redécouverte de Cerveteri, à la découverte de Cerveteri au XIXe siècle. Et on a insisté aussi sur cette introduction parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire culturelle du XIXe siècle. La redécouverte des grands sites étrusques est vraiment un moment fondateur de l'archéologie. C'est vraiment la redécouverte des grands sites étrusques de Tarquinia, de Vulci, de Cerveteri à partir des années 1820 qui a donné une impulsion à la recherche archéologique. C'est à cause de ces découvertes que des savants ont décidé de fonder des instituts archéologiques, qu'on a fondé des revues, qu'on a organisé des fouilles systématiques, que les grandes collections archéologiques se sont développées. Donc c'est un moment tout à fait fondamental dans l'histoire des collections et qu'on présente à travers une succession des premières découvertes depuis ces grandes terres cuites du Vatican qui sont à votre droite, des années 1826. Cet ensemble-là, qui est le premier ensemble des collections françaises, qui a été offert à la Bibliothèque nationale de France par une des grandes familles de Cerveteri, les Torlonia, qui ont donné un certain nombre d'objets découverts à Cerveteri en 1835 à la Bibliothèque nationale, et d'autres éléments qui racontent donc la succession de ces découvertes jusqu'à la période de Campana, le marquis Campana, qui a été une sorte de héros, là aussi, des découvertes cerétaines, des découvertes de Cerveteri, qui a constitué la plus grande collection d'antiquités au XIXe siècle. Et vous savez que c'est cette collection d'antiquités qui aboutit en 1862 en France, achetée par Napoléon III, et qui fait la richesse de la collection étrusque du Louvre, non seulement d'ailleurs de la collection étrusque du Louvre, mais également de la collection grecque, puisque, on va le voir dans l'exposition, les vases grecs, les plus beaux vases grecs, ont été découverts dans les nécropoles étrusques, et en particulier à Cerveteri. Et là, on présente une nouveauté, un tableau qui a appartenu à Campana, et qui commémore, vers 1850, la découverte d'une des plus belles tombes de Cerveteri, qu'on reverra en image dans l'exposition, qu'on appelle la tombe des reliefs, un des chefs-d'œuvre de l'architecture et du décor funéraire, daté vers 300 avant notre ère. Et donc ça, c'est vraiment aussi une manière de montrer l'impact de ces découvertes dans l'imaginaire du XIXe siècle. Et c'est quelque chose qui a conditionné notre regard très fortement depuis ces deux siècles. Et c'est quelque chose qui sert de fond vraiment à toute cette recherche qui a été entreprise depuis le XIXe siècle et en particulier cette dernière décennie, et dont nous présentons les résultats dans les salles qui suivent.
Françoise Gauthier, directeur par intérim du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, et un des commissaires de l'exposition, mais on est six.
Comment on peut situer les Étrusques comme civilisation ?
Alors, c'est une civilisation très, très brillante, sans doute la plus brillante qui se soit développée en Italie avant Rome, et qui est une civilisation qui se développe au centre de l'Italie, au cœur même de la Méditerranée, et donc en rapport aussi bien avec le monde, avec le Proche-Orient, qu'avec le monde grec, et plus tard le monde punique, et aussi avec l'Europe centrale. Donc c'est vraiment une civilisation brillante, qui est très ouverte sur l'extérieur et en contact avec l'ensemble des cultures du monde méditerranéen.
L'art étrusque, on peut le caractériser comment ?
Alors, l'art étrusque, c'est un art qui est très ouvert aux influences extérieures, mais qui a sa personnalité propre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est une culture qui n'est qu'une culture qui absorbe. Et c'est aussi une culture qui est en dialogue avec les autres cultures. Et par exemple, elle accueille... On la voit très... Les Étrusques sont les meilleurs clients des artisans, des potiers, des peintres grecs, des peintres sur vase. Mais en même temps, ils orientent aussi la fabrication des ateliers d'Athènes, par exemple. Les influences vont dans les deux sens.
L'art et l'artisanat sont étroitement liés.
Oui, je ne ferai pas vraiment... pas vraiment la distinction, c'est les mêmes ateliers qui produisent le sarcophage des époux, qu'on peut considérer comme un chef-d'œuvre, et les petites urnes représentant soit le même motif, soit le défunt.
Donc cette exposition, elle est riche, elle est importante, elle est en lien aussi avec l'Italie.
De manière, non seulement elle raconte l'histoire d'une cité étrusque. Chiave Terry, c'est une cité vivante qui s'est réinstallée sur le site antique. Elle raconte un millénaire d'histoire d'une cité étrusque. En même temps, c'est une exposition qui a été faite en collaboration aussi avec nos collègues italiens. C'est ce qui fait, je pense, son originalité et sa richesse. Elle est réalisée à la fois à l'initiative du Louvre et du CNR, c'est-à-dire en fait l'équivalent du CNRS en Italie. Pourquoi ? Parce que le Louvre, d'une part, a une collection sérétaine très riche par le biais d'entrée par l'intermédiaire de la collection Campana. Le CNR, parce qu'il fouille depuis 30 ans aussi dans la zone urbaine, sur le territoire de Chiave Terry. Et se fait aussi en collaboration, bien sûr, avec la surintendance aux Antiquités d'Étrurie méridionale, qui exerce la tutelle à la fois sur le territoire, sur les fouilles, et aussi sur les collections. À l'inverse de la France, les deux sont liés, sur les musées, soit le musée de la Villa Giulia ou le musée national Sérite, le musée de Chiave Terry. Et donc, en fait, c'est aussi rapproché l'Université La Sapienza, qui fouille à la Pirgi depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire dans le port de Chiave Terry. Et c'est donc cette synergie, cette collaboration qui permet aujourd'hui de faire en fait ce tableau historique inédit, de le proposer en tout cas au public. Je pense que c'est ce qui fait peut-être l'originalité de cette exposition et ce qui nous fait plaisir aussi.
Donc ces pièces, bien sûr, on les a trouvées dans des fouilles en Italie, mais au-delà de ça...
Aussi, on les a trouvées aussi en mer, en fait. On les a trouvées... Il y a aussi le résultat de fouilles menées sur les épaves découvertes, par exemple, au large d'Hyères, l'épave du Grand Ribaud. Donc on a voulu évoquer à la fois les aspects du commerce, c'est-à-dire non seulement les œuvres qui sont importées comme la céramique grecque, mais aussi les œuvres, les produits exportés qui sont en particulier le vin de Chiave Terry qui était réputé dans l'Antiquité et l'huile parfumée, les huiles. Et donc c'est des chargements d'amphores que l'on évoque comme ça avec quelques amphores venant du Grand Ribaud, l'épave du Grand Ribaud. Donc on a aussi beaucoup de pièces, par exemple pour les périodes plus récentes, on a la céramique à figure rouge qui est beaucoup circulée, qui vient de Chiave Terry, mais qui illustre une production qui a été largement diffusée à la fois sur les côtes du sud de la France, l'Espagne, et très largement dans le bassin méditerranéen et en Corse également.
Les pièces que l'on voit sont... admirablement conservées, on va dire.
Elles sont bien conservées, elles ont été aussi restaurées, parfois bichonnées, j'allais dire. C'était le cas, puisqu'on est à Lens, je voudrais quand même insister sur le fait que le sarcophage des époux, qui est quand même peut-être l'œuvre majeure, a été pendant un temps accueilli dans les ateliers de restauration de Lens pour un très léger nettoyage et aussi une amélioration des anciens comblements et des restaurations faites dans les années 80, à une époque où on ne disposait pas des mêmes matériaux.
Les perspectives de cette exposition, donc l'Italie après,
et puis l'Italie, elle sera exposée au Palais des Expositions, donc à Rome. Elle a été co-organisée par le musée du Louvre-Lens et par l'Azienda Speciale de Pala Expo. Et elle sera présentée donc dans sa seconde étape à Rome au Palais des Expositions.